VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du mercredi 6 mai 2015. À la une ce soir.
Affrontement au Bénin entre opposants et forces de l'ordre à Cotonou.
Signe d'apaisement au Burundi, le pouvoir ouvre des discussions informelles avec les opposants à la candidature du président Pierre Nkurunziza.
L'ONU condamne la mort de deux casques bleus dans une attaque des rebelles des ADF à Beni, dans le nord-est de la RPC.
Au Niger, 25 000 habitants des îles du lac Tchad ont été évacués par crainte de nouvelles attaques de Boko Haram.
En Guinée, le chef de file de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, accepte de rencontrer le président Alpha Condé vendredi au palais présidentiel.
Crise au Yémen, Washington propose une pause humanitaire dans les combats et offre une nouvelle aide de 60 millions de dollars.
Fin de la campagne électorale en Grande-Bretagne, les sondages prédisent un résultat serré demain entre David Cameron et Ed Miliband.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Des troubles ont éclaté cet après-midi à Cotonou, où plusieurs centaines de manifestants sont descendus dans la rue malgré une interdiction des autorités pour dénoncer les dérives autoritaires du régime béninois. C'est ce que rapporte l'AFP. L'opposition avait appelé à manifester aujourd'hui suite à la tentative d'interpellation, plutôt cette semaine, d'un député de l'opposition pour incitation à la haine, menace à la sûreté de l'État et menace contre la personne du chef de l'État, Thomas Boni Yayi.
Le gouvernement burundais a ouvert des discussions informelles avec les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Bujumbura a été aujourd'hui le théâtre de nouveaux affrontements. Idriss Fall.
Le pouvoir a accepté de discuter avec des éléments de la société civile et de l'opposition. Mais un participant à ces discussions s'est montré sceptique, disant que le gouvernement refuse de discuter du troisième mandat, ce qui, selon lui, est non négociable. La Cour constitutionnelle a donné raison au chef de l'État. Cette décision est rejetée par les opposants qui estiment que cette Cour est inféodée au pouvoir. Dans les quartiers de Bujumbura, à Kanyosha, la tension était vive entre manifestants et les Imbonerakure, une milice proche du pouvoir. À Kinindo, des policiers ont ouvert le feu pour disperser les manifestants. Des heurts ont aussi eu lieu à Chibitoke. Alexis Manirakiza, porte-parole de la Croix-Rouge, a fait état de 16 blessés. Depuis le début des manifs, les violences ont fait 14 morts. Et pour tenter d'éteindre le feu, les ministres rwandais, kenyans, ougandais et tanzaniens des affaires étrangères sont à Bujumbura pour tenter de rencontrer tous les acteurs et essayer de proposer des voies de sortie de crise.
La crise politique au Burundi inquiète l'ONU. Plus de 35 000 Burundais ont déjà fui vers les pays voisins, déplore le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Au Rwanda, les réfugiés disent fuir les campagnes d'intimidation perpétrées par les jeunes du parti au pouvoir au Burundi.
Le secrétaire général des Nations Unies a condamné la mort hier de deux casques bleus dans une attaque des rebelles des ADF à Beni, dans le nord-est de la RDC. En revanche, les quatre soldats de maintien de la paix portés disparus ont été retrouvés et sont sans danger. Dans le même temps, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, la MONUSCO, annonce des renforts pour une contre-offensive contre le groupe rebelle ougandais. Le point avec Edith.
L'ONU se rend à l'évidence que les groupes rebelles ougandais a bien gardé sa capacité de nuisance en dépit de l'annonce de la mort de certains de ses responsables et des arrestations d'autres la semaine dernière. Le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayo, l'a admis mercredi. La veille, deux casques bleus ont été tués dans une embuscade d'une centaine d'hommes supposés être des ADF. Un jour plus tôt, un hélicoptère de la MONUSCO en patrouille a essuyé des tirs du même groupe dans la même région. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a fermement condamné les attaques des ADF. La MONUSCO a décidé d'envoyer des renforts dans la région et d'y déclencher une contre-offensive. Celle-ci pourrait se faire en parallèle avec l'opération lancée par l'armée congolaise qui a abouti la semaine dernière à la mort des 16 combattants, dont le numéro 3 des ADF, et la découverte des 4 fosses communes. La MONUSCO et l'armée congolaise ne font plus route ensemble depuis que la mission onusienne exige que des commandants congolais impliqués dans des crimes soient mis à l'écart, ce que les autorités congolaises refusent.
Et c'est dans ce contexte que l'Ouganda demande l'extradition du chef des ADF arrêté en Tanzanie en avril. Jamil Maluku, qui serait âgé de 51 ans, est recherché par l'Ouganda pour une série de crimes.
Et nous restons dans la région. Plus de 400 enfants soldats ont pu s'échapper des groupes armés sévissant dans l'est de la RDC grâce aux opérations militaires en cours contre les milices, estime la MONUSCO. Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours des partis proches de l'ex-président Blaise Compaoré contre le nouveau code électoral, un texte qui interdit à ses partisans de participer au scrutin d'octobre, a-t-on appris aujourd'hui de sources judiciaire. D'après l'AFP, la requête n'étant pas signée par les auteurs et les députés pro-Compaoré, mais par leurs avocats, doit être déclarée irrecevable, a estimé le Conseil constitutionnel dans sa décision, dont l'AFP a eu une copie.
Une crise politique en Guinée, le chef de file de l'opposition, Sélouda Alain Diallo, accepte de rencontrer le président Alpha Condé vendredi au palais présidentiel. C'est ce que l'intéressé a déclaré à l'AFP. Toutefois, l'opposition guinéenne insiste pour que ses revendications soient totalement et entièrement satisfaites, selon ce qu'a déclaré Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition.
Le président mauritanien a affirmé hier à Nouakchott que l'esclavage n'existe plus dans son pays, mais qu'il reste des séquelles. Il accuse les ONG d'en faire un fonds de commerce. Claire Morin-Gibourg.
Pour Mohamed Ould Abdelaziz, l'esclavage n'existe plus en Mauritanie. Selon lui, il en subsiste des séquelles et il dit tout faire pour les traiter en allant vers les anciens esclaves et leurs descendants pour leur offrir de l'eau, des écoles et des routes. Son gouvernement a adopté en avril un projet de loi renforçant la répression de l'esclavage par des peines plus sévères. Le président mauritanien a accusé les ONG de saboter ses efforts en faisant de l'esclavage un fonds de commerce. Trois militants anti-esclavagistes, dont Biram Oulda Oulda Beyd, arrêtés le 15 janvier dernier, ont été condamnés à 2 ans de prison pour appartenance à une organisation non autorisée. Leurs avocats ont fait appel. Des milliers de Haratines, les descendants d'esclaves, ont manifesté le 30 avril à Nouakchott pour réclamer justice et la fin des discriminations. L'esclavage a été officiellement aboli en Mauritanie en 1981 et depuis 2007, les personnes reconnues coupables d'une telle pratique peuvent écoper jusqu'à 10 ans de prison.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry se promet de discuter d'une pause humanitaire pour le Yémen quand il sera en Arabie Saoudite. Il l'a dit lors d'une escale aujourd'hui à Djibouti, ici à Kaba.
Selon l'envoyé spécial de la VOA, Pam Dawkins, le chef de la diplomatie américaine, a aussi annoncé une nouvelle aide de 68 millions de dollars pour le Yémen. Ces fonds appuieront les agences qui fournissent vivres, eau, abri et autres à 16 millions de Yéménites dans le besoin. L'Arabie Saoudite, pour rappel, a mené des raids aériens au Yémen contre les rebelles chiites Houthis qui cherchent à renverser le gouvernement de Sanaa. Monsieur Kerry a rencontré à Djibouti le président Ismaël Omar Guelleh et son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Il les a remerciés pour leur assistance à des centaines d'Américains qui se sont réfugiés à Djibouti pour fuir la violence au Yémen, tout juste de l'autre côté du golfe d'Aden. Tout comme il l'a été hier en Somalie, John Kerry est également le premier secrétaire d'État américain à visiter Djibouti, où il a aussi rencontré les officiels américains au camp Lémonier. Cette base, dans l'ancienne colonie française de Djibouti, est devenue une partie importante de la présence militaire américaine au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.
Les États-Unis ont proposé à leurs partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU de lancer une enquête pour déterminer qui est responsable des récentes attaques chimiques en Syrie, en particulier celles au gaz de chlore. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des diplomates onusiens. Cette enquête serait menée par des experts nommés par l'ONU. La Syrie est censée avoir détruit son arsenal chimique au terme d'un accord conclu en septembre 2013, mais l'OIAC a conclu que du gaz de chlore avait été utilisé de manière répétée et systématique comme arme chimique en Syrie. Le Conseil de sécurité a menacé en mars de prendre des mesures si ces attaques se répétaient, mais il reste divisé sur la responsabilité.
Élections en Grande-Bretagne, les législatives auront lieu demain jeudi. Le Premier ministre David Cameron et son challenger du Labour Party, Ed Miliband, ont poursuivi leur campagne jusqu'à ce mercredi. Monsieur Cameron a promis qu'en cas de réélection, il organiserait un référendum sur la présence du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Autre question capitale, l'indépendance de l'Écosse Les nationalistes écossais ont perdu au plébiscite de l'an dernier, mais ils pourraient devenir le troisième bloc à la Chambre des communes et ainsi former une coalition avec les travaillistes. Selon les sondages, la course est trop serrée pour des prédictions crédibles.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, ce soir avec Jean-Roger Billon.
Pour faire face à un manque de liquidité provoqué par la baisse des prix du pétrole, le Nigeria a été obligé d'emprunter massivement pour payer les salaires des fonctionnaires, a indiqué le ministre nigérian des Finances. Nous avons de sérieuses difficultés. Cela s'aggrave depuis le début de l'année et va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, a expliqué Ngozi Okonjo-Iweala. Le Nigeria, plus importante économie et premier producteur de pétrole d'Afrique, a été frappé durement par la chute d'environ 50% des prix du pétrole, alors que les ressources de l'État en dépendent à plus de 70%. Les assemblées annuelles de la BAD se tiendront cette année du lundi 25 au vendredi 29 mai 2015 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le thème retenu cette année, l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Plus de 2500 délégués représentant des institutions financières multilatérales, des agences de développement, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, la société civile et les médias sont attendus. Ces assemblées annuelles vont commémorer les 50 années de la contribution de la Banque au développement de l'Afrique et un nouveau président du groupe de la BAD sera élu. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a appelé aujourd'hui à davantage de mesures dans les rémunérations des dirigeants d'entreprises et notamment des banques. Elle a évoqué des systèmes où les bonus pourraient être annulés ou révisés en cas de mauvaise conduite des dirigeants ou de sous-performance de l'entreprise concernée ou bien si celle-ci devait recourir à une aide publique. La directrice générale du FMI a rappelé que 2 milliards de personnes dans le monde n'avaient pas de compte en banque et qu'il fallait lutter contre l'exclusion financière.
C'était la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Plein feu sur les stades, c'est la page sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Deuxième demi-finale allée de la Ligue des Champions en Europe.
FC Barcelone, Bayern Munich, hein, c'est la seconde affiche des demi-finales allée de la Ligue des Champions qui sent le souffre avec le retour au Camp Nou de l'ancien entraîneur du Barça, Pep Guardiola, désormais à la tête du géant bavarois. Problème pour le club catalan, le Bayern est sa bête noire avec 5 défaites, 2 nuls et 1 victoire seulement pour les Blaugrana dans l'histoire des duels entre les deux équipes.
Mais le foot se joue seulement sur le terrain, donc attendons voir. Hier soir, la Juventus de Turin n'a pas tremblé à domicile.
Justement, une preuve de ce que vous dites, hein, le club de Turin a battu le Real Madrid de 2-1. Les buts turinois ont été inscrit par Morata à la 8e et une égalisation de Ronaldo à la 27e. Et le second but turinois est intervenu en seconde période à la 58e.
Que se passe-t-il dans le football béninois, Bagassi?
Eh bien, cette affaire de retrait de l'agrément de la fédération béninoise, un émissaire de la FIFA est à Cotonou pour constater les différents problèmes que le football béninois traverse actuellement. Élisée Mpatine nous en dit plus.
Au cours de son séjour, Primo Covaro a rencontré les membres du comité olympique et sportif béninois, ceux de la Fédération béninoise de football et surtout le ministre des Sports pour justement rédiger un rapport à la FIFA. Et c'est par rapport à cela que l'instance qui dirige le football au niveau mondial va déterminer si le gouvernement béninois a fait preuve d'ingérence vis-à-vis de la fédération et surtout les sanctions qui vont suivre. Après avoir écouté tous les acteurs, Covaro, lors d'un point de presse, a rappelé l'importance de cette discipline.
La priorité pour nous tous, c'est que le ballon roule. Donc, il faut savoir réaliser cet objectif, bien en prendre conscience et pouvoir surmonter parfois certaines choses qu'on souhaiterait peut-être voir différemment. Et la priorité, c'est que le football roule et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer à travers mes entretiens avec le comité de la fédération.
Élisée Mpati, Boïcon, La Voix de l'Amérique.
Et on va passer au basket, la NBA.
Oui, en demi-finale du championnat nord-américain de basketball, un match d'abord très serré mardi soir entre les Wizards de Washington et les Hawks d'Atlanta. Mais en fin de compte, les Wizards ont cédé face à la détermination d'Atlanta et ont concédé la partie 106 à 90.
Donc la série est à égalité 1 à 1, c'est bon pour Washington. Et puis Memphis Grizzlies?
Ouais, Memphis a gagné 97 à 90 face aux Golden State Warriors.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Morgane Guiriac, en votre compagnie, place au dossier du jour.
Les Pays-Bas ont suspendu ce mercredi, Morgane, leur aide au développement pour le Bénin après la découverte d'une fraude massive sur les fonds versés pour des projets d'accès à l'eau potable. Il y a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères où la ministre adjointe pour le développement, Liliane Plomen, précise que la décision a été prise suite aux conclusions d'un audit lancé en 2014, disant que 4 millions d'euros ont disparu et que des sociétés nouvellement créées se sont vues attribuer d'importantes sommes d'argent. Nathalie Barge a recueilli la réaction de Maître Sadiku Alao, président du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, GERDES Afrique.
Ça ne peut être qu'un désastre, parce que les Pays-Bas, surtout les pays nordiques, d'une manière générale, accordent des aides très généreuses, très souvent non conditionnelles.
Alors qu'est-ce qu'il ressort de cette affaire, 4 millions d'euros qui ont disparu dans la nature?
Il semblerait des sociétés fictives, hein. Au centre desquelles serait un certain Rémi Kodo, un monsieur d'une trentaine d'années, qui aurait été appréhendé puis mis en liberté provisoire. Et il paraîtrait que le Conseil des ministres récemment aurait demandé à d'autres sociétés régulièrement constituées de poursuivre la réalisation de ces projets-là en faisant des dons, pour que les projets, en fait, soient effectivement réalisés.
Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus de contrôle sur ces sommes considérables?
Non, c'est sûr qu'il doit y avoir des complicités. Au niveau des décaissements, c'est le trésor public. Et même si le ministère concerné est le ministère de l'eau, et d'où sont partis les principaux contrats, mais l'exécutant financier, c'est le service du trésor. Donc il doit y avoir des complicités. Donc en arrêtant ce monsieur, surtout que ce sont des sociétés fictives, il doit avoir beaucoup de complicité, parce que les sous de l'État ne se décaissent pas comme ça.
Et qui est ce Rémi Kodo? S'agit-il d'un homme d'affaires connu au Bénin?
Ça serait plus un affairiste qu'un homme d'affaires, parce qu'il y a des gens qui jaillissent de nulle part et qui très rapidement font fortune, et il ne peut pas faire fortune seul. C'est sûr que les gens parlent de la possibilité, on le soupçonne d'avoir financé récemment un parti politique, d'avoir donné, semble-t-il, une centaine de millions à un parti politique, récemment créé lui-même. Donc, le don des Pays-Bas, la manière dont il a siphonné l'argent, c'est de faire agréer des contrats et il ne les exécute pas ou en a exécuté seulement en partie. Très peu.
Mais je reviendrai vers ma question précédente. C'est tout de même l'État qui est censé contrôler lorsqu'il fait appel à une entreprise, si cette entreprise est fictive ou non.
Oui, au niveau du contrôle que l'on a fait sur les sociétés qu'on a agréées et auxquelles on a confié des contrats, il doit avoir eu de la légèreté. Et au moment du paiement aussi, mais on reçoit quand même les responsables de la société et on vérifie à la banque leur compte bancaire pour s'assurer de leur existence réelle.
Voilà, c'était Maître Sadiku Alao, président de GERDES Afrique. Il était joint à Cotonou.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La ville de Gao, sur le fleuve Niger, est en délestage depuis bientôt 5 jours. La nouvelle centrale thermique, installée il y a moins d'une année, ne fonctionne plus, alors que les températures avoisinent les 50 degrés à l'ombre. Les Maliens souffrent de la situation, signale notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Ce sont des milliers de gens qui arrivent, qui ont traversé à pied. Sur le chemin, des gens qui sont morts de soif, de faim, des malades transportés dans des pousses-pousses, des femmes qui ont accouché, d'autres qui ont accouché et qui sont mortes sur le chemin, etc., sans vraiment une assistance digne de ce nom. Donc c'est une situation très grave.
Telle est la situation sur le terrain, telle que décrite par le secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, Moussa Tiangari.
Selon les témoignages que nous avons recueilli à travers le mécanisme de veille et de suivi de la situation humanitaire et des droits de l'homme que nous avons installé dans la région de Difa, mécanisme qui couvre pratiquement l'ensemble des communes,
aucun dispositif n'a été mis en place pour l'évacuation, l'accueil, l'installation et l'accompagnement des populations qui ont été sommées de déguerpir les 74 îles et 116 villages du littoral Tchad. Au contraire, des obstacles même sont dressés pour empêcher aux transporteurs locaux d'aller au-delà de certains endroits pour assurer le transport. Cette situation montre que ce n'est pas une évacuation de la population. Parce que qui dit évacuation, ça veut dire que le gouvernement, les autorités mettent en place un dispositif. On connaît les gens, on vient, on les récupère, on les amène dans un autre endroit, on les installe, c'est ça, évacuation. Ce qui est en train de se passer dans le lit du lac Tchad, c'est une expulsion des populations.
Cette décision d'évacuation a été prise par les autorités dans le cadre de l'état d'urgence décrété dans la région de Diffa depuis les premières attaques de la secte islamiste Boko Haram. Pour Alternative Espace Citoyen, c'est cette situation d'état d'urgence qui conduit à des excès et même à des violations des droits de l'homme. Moussa Tiangari.
L'état d'urgence donne lieu à des violations graves des droits humains, parce que chasser des gens de cette façon est une violation des droits, sans compter d'autres types de violations dont nous avons eu écho. Hier seulement, des personnes ont été tuées dans la région. Des personnes soupçonnées ont été tuées. Donc, c'est quand même une situation très grave et nous assurons l'attention du gouvernement sur l'obligation qu'il a de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population. Il ne s'agit pas seulement de contrôler un territoire, mais il faut aussi protéger cette population. Dans quelques semaines, vous aurez de plus amples d'autres informations qui vont vous éclairer sur pourquoi, en fait, on porte plus d'attention sur le territoire que sur les personnes.
Du côté des autorités régionales de Diffa notamment, l'on assure que tout s'est passé dans les normes. Pas besoin donc de réagir aux accusations portées par l'association Alternative Espace Citoyen. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et bien sûr, vous l'avez noté, on parlait de la situation des populations nigériennes vivant sur les îles du lac Tchad qui ont été sommées par les autorités de vider les lieux. C'était au plus tard le 4 mai, donc il y a 2 jours. Merci Abdulrazak Idrissa.
Et on revient sur le sujet précédemment annoncé. La ville de Gao sur le fleuve Niger est en délestage depuis bientôt 5 jours. C'est le reportage de Boubacar Touré.
Voilà 5 jours que la ville de Gao connaît à nouveau un délestage dans la distribution d'électricité, alors que la société Énergie de Gao a été dotée d'une nouvelle centrale thermique il y a moins de 1 an. Comment apprécie-t-on la situation dans une zone où le mercure affiche très souvent 50 degrés à l'ombre?
Voilà, ça fait 3 ou 4 jours comme ça qu'on ne recevait pas de courant et qu'on sort. Donc vraiment, nous, on se souhaite que vraiment, s'ils peuvent faire quelque chose mieux, vraiment, ça nous arrange beaucoup.
Dans une grande ville, quand même, ça dit le courant, l'électricité, c'est une nécessité. À l'heure où nous sommes, toute la population de Gao souffre du manque d'électricité. Surtout à l'approche du mois de Ramadan. Donc maintenant, c'est une autre chose, quoi.
Omar Meiga est un ouvrier qui travaille avec le courant. Il a des difficultés énormes pour nourrir sa famille.
Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de travail, il y a beaucoup. Il y a des courants, il y a de quelque chose. Qu'un mince, il y a 4 jours, il n'y a pas de courant.
4 jours, tu ne travailles pas?
Il n'y a pas de travail.
Mais comment tu fais pour nourrir ta famille si tu ne travailles pas?
Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de solution.
Pour mieux comprendre la situation, nous avons approché le directeur de la société Énergie, Daouda Cham. Il nous explique les difficultés auxquelles ils sont confrontés actuellement.
Depuis un certain temps, la continuité des services était assurée par la nouvelle centrale qui a été construite il n'y a pas très longtemps, à la faveur de la reprise. Cette nouvelle centrale, aujourd'hui, on est à une disponibilité de 0 groupe sur 4. Mais les 4 groupes ne sont pas tombés en panne en même temps. Ils n'étaient jamais ensemble disponibles. Il y a un qui partait, l'autre présentait d'autres problèmes. On enlève des pièces d'un groupe pour les mettre sur d'autres.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré ce jeudi à la police américaine. Une nouvelle fois, un Africain-Américain est mort entre les mains de la police, cette fois à Baltimore. L'histoire se répète donc dans l'Amérique post-raciale de Barack Obama. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Coup de projecteur ce soir sur le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Ce groupe d'experts qui travaille pour amener les gouvernements à libérer des personnes emprisonnées sans cause est peu connu en Afrique.
Il a joué un rôle important, il faut le dire, Morgan, dans des cas comme celui du franco-camerounais Michel Thierry Atangana. Il a passé 17 ans en prison au Cameroun. Alors, Timothée Donangmaï s'est entretenu avec Setonji Roland Adjovi, unique membre africain du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. On l'écoute.
L'Afrique reste un continent où les gens sont peu informés de ce que fait le groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est un groupe d'experts des Nations Unies. Nous sommes 5. Et on n'a pas énormément de cas qui viennent des pays africains, mais les quelques cas qui viennent sont emblématiques de la situation sur le continent. Donc nous avons le cas de Atangana, où le groupe de travail a rendu son avis en novembre 2013, en disant que les 17 années de prison étaient arbitraires et injustifiées. Nous avons aussi des cas aujourd'hui relatifs à la Gambie, où on a demandé au gouvernement des explications sur une ou deux plaintes. Nous avons aussi le cas d'un journaliste au Swaziland qui a été emprisonné, mais nous en avons aussi dans les pays du nord de l'Afrique, Égypte, Tunisie, Libye, Algérie.
Quels sont vos rapports avec les gouvernements qui sont concernés par vos enquêtes?
Une fois que nous avons reçu l'information sur la violation, nous écrivons au gouvernement en faisant le point sur les allégations que nous considérons plus ou moins établies pour avoir une réponse du gouvernement avant de rendre une décision. Rares sont les gouvernements qui répondent effectivement. Et même quand ces gouvernements répondent effectivement, on ne trouve pas que la réponse est souvent appropriée aux violations qu'on allègue. On a des cas au Cameroun où le gouvernement a répondu et pourtant le groupe de travail a considéré qu'il y avait eu violation. L'Égypte aussi a répondu à plusieurs reprises et pourtant le groupe de travail a considéré qu'il y avait eu violation des droits de l'homme.
De quels moyens disposez-vous pour amener ces gouvernements à appliquer vos recommandations?
Le groupe de travail fonctionne comme un tribunal, une procédure quasi juridictionnelle. On rend notre décision et on s'en tient à là pour l'instant. On n'avait pas de mécanisme de suivi et on envoie nos conclusions au gouvernement en faisant des recommandations au gouvernement sur ce qu'il faut faire. En général, on demande la libération de la personne, on demande la réparation. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place une procédure de suivi où on va continuer à garder le contact avec le gouvernement pour voir l'exécution de nos conclusions. Et on va travailler aussi avec la victime pour s'assurer que la victime obtienne réparation. Et il y aura probablement la société civile qui sera informée et qui fera aussi son activisme comme d'habitude.
On écoutait Setonji Roland Adjovi, unique membre africain du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de ce soir, Yemi Obajimi, assisté d'Alfredo Santos. Présentation, Morgane Guériec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.